Vous allez écouter un message de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ce message a pour but votre transformation afin de transformer votre famille, votre ville, votre entourage. L'Église Nouvel Espoir, c'est des vies transformées pour transformer.
Dans Romains 8, il est écrit « maintenant ». Maintenant, ça veut dire tout de suite. Maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation. Ah, c'est le message est fini. Bon dimanche, bye bye. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ, je ne sais pas pour vous si vous avez déjà joué ce jeu. Quand j'étais enfant, il y avait ce jeu en anglais, c'était Simon Says. Ici, dans la région, c'était peut-être Simon dit. Quand je suis allé au Congo, c'était Jacques a dit. Pour certains, c'est Jean dit. Quel que soit qui disait. Mais Jacques disait, Simon disait, et tu devais faire. Simon dit saute, tu sautes. Simon dit assis, tu t'assois. Simon dit mange, tu manges. La vie en Christ, quand j'étais enfant, je trouvais que la vie en Christ, c'était souvent pour les adultes, c'était ma perception. Ce n'est pas ce qu'on m'avait enseigné, mais c'était ma perception. Et en grandit dans l'Église, que c'était Jésus dit. Jésus dit, va à l'Église. Jésus dit, ne fais pas ceci. Jésus dit, vis ta vie comme ça. Jésus dit, une série de Jésus dit. Et parfois, déjà dans le Jean dit, dans le Simon dit, dans le Jacques a dit, j'étais pas très bon. Et vous savez qu'est-ce qui arrivait quand tu ne faisais pas, quand on te disait assis et tu trouvais pas une chaise très rapidement, qu'est-ce qui arrivait? Tu étais éliminé. Alors, il m'arrivait aussi dans le Jésus dit à ne pas être très bon. Et qu'est-ce qui arrive quand tu n'es pas très bon dans le Jésus dit? Des fois, on te met en dehors du cercle, parfois, tout dépendamment du milieu dans lequel tu es. Et il arrive des fois, dans la jeunesse, il arrive des fois de décider de faire des choix qui ne sont pas bons pour toi, mais qui ne sont pas bons pour ta foi aussi. Et qu'est-ce qui arrivait souvent quand on n'était pas bon au Jésus dit? On disparaissait. On ne savait pas qu'est-ce qui arrivait au frère qui n'a pas fait Jésus dit. Et personne n'en parlait. Il disparaissait et tout ce qu'on pouvait savoir de lui, c'est qu'il n'avait pas il n'avait pas bien répondu à ce que Jésus disait. Et en tout cas, c'est ça qui arrivait. Et des fois, on revenait à l'église avec foi. Je revenais à Dieu. Mon père étant pasteur, je revenais avec ma foi et tout cela. Et on regardait autour de nous et on dirait que la vie chrétienne semblait être des fois monotone pour certains d'entre nous en tant que jeunes chrétiens, plus monotone que la vie qui était à l'extérieur. J'étais un peu comme dans ce texte d'Alphonse Daudet, la chèvre de M. Séguin, qui regardait l'herbe autour et qui disait, mais l'herbe est plus belle en dehors que mon herbe que j'ai, moi. Je ne sais pas pour vous, mais c'est mon témoignage. Jusqu'à ce que j'ai compris cette parole de Philippiens 1:6. En Christ, il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation. Et nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir au travers de ce mois, qu'est-ce que ce passage veut dire? Quelle est la profondeur de ce passage? Nous sommes une église, Nouvel Espoir, qui croyons que Dieu va restaurer, que Dieu va transformer, que Dieu va guérir les gens, quel que soit le lieu où est-ce que tu es aujourd'hui. Peut-être tu viens ici, première fois, puis tu dis, écoute-moi ces affaires d'église, là, pourquoi tu m'emmènes ici? Peut-être tu es là. Dieu est là pour toi aussi ce matin. Peut-être que c'est ta 20e fois, peut-être que ça fait 20 ans que tu viens à l'église, puis tu étais là, puis tu écoutais tout ça, tu nous voyais chanter, puis tu dis, waouh, c'est long. Le temps est long ici. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a un lieu, il y a quelque chose pour toi ce matin, et je suis certain que dans les semaines à venir, tu vas être celui qui va être ici au sol et tu vas dire, alléluia, Seigneur, touche-moi. Plein de passion. J'ai beaucoup de sceptiques. C'est très bien. Dans Philippiens 1:6, il est écrit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Celui qui a commencé la rendra parfaite. Jésus a commencé une œuvre et il la rendra parfaite. Quelles sont les implications de cela? Premièrement, cette lettre est écrite aux chrétiens de Philippe. Philippe, c'était une ville dans laquelle, quand l'apôtre Paul s'est rendu à Philippe, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été tellement bien accueilli que dans 1 Thessaloniciens 2:2, il dit « J'ai souffert et reçu des outrages à Philippe. » Donc, quand il est arrivé à Philippe, c'est le lieu où est-ce qu'il a été fouetté, battu, où est-ce que... Vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a eu, il n'y a pas longtemps, ce vidéo de ce musicien pop star, Justin Bieber, que tous nos jeunes n'aiment pas. Et il était là en avant, puis il chantait, et quelqu'un lui a lancé une tomate ou quelque chose sur la tête. Et il y a certains jeunes, j'entends des « yes », c'est pas gentil, ça. Et pour certaines personnes, ils étaient contents, mais c'est ce qui est arrivé à Paul. Paul s'est retrouvé dans une ville, Philippe, pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer quelque chose de plus que la pop musique. Il a annoncé la bonne nouvelle, et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a pris, on l'a battu. Il dit, mais merci beaucoup de nous donner la vie en abondance. On va te montrer c'est quoi, la vie. Et il a été battu dans ce lieu, il a souffert des outrages, et il arrive à Thessalonique, on l'accueille bien. Alors, on lui donne le filet mignon, on l'assoit, on lui dit « Ah, toi, tu es l'homme de Dieu » et tout ça. Et Paul se retrouve maintenant en prison, après ces années-là, il se retrouve en prison, il doit faire face à César, et pendant qu'il est en prison, plusieurs personnes l'abandonnent. Tous ceux qui lui ont donné du filet mignon l'abandonnent. Mais les chrétiens de Philippe, qui l'ont battu, le soutiennent financièrement. Ça, c'est, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ça veut dire qu'il y a des gens peut-être aujourd'hui qui ne sont pas très émotionnels avec toi. Peut-être qu'ils sont durs sur toi. Peut-être que tu as vécu des outrages. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'il t'aime pas. Ça ne veut pas dire cela. Des fois, il y a des gens dans nos vies, on vit des choses, on vit de la persécution. Et très souvent, on se plaint de la persécution. Mais j'aimerais te dire, s'ils ont persécuté le maître, ils vont nous persécuter aussi. Et dans cette persécution, Dieu est toujours capable de nous donner une lumière. Dieu est toujours capable de nous donner quelque chose de positif. On dit qu'il faut souffrir, endurer pour durer. Il faut souffrir pour avoir du fruit. Et Paul, il a souffert. Et dans cette lettre, elle est fantastique. Parce que c'est une lettre. Lisez-la comme une lettre. Et dans cette lettre, Paul dit merci. Merci pour les bons cadeaux. Merci pour tout ce que vous m'avez donné. C'est fantastique. Waouh, le chèque que vous m'avez donné, c'est fantastique. Je suis en prison et je peux payer le geôlier afin de manger du filet mignon. C'est ça la lettre aux Philippiens. Et dans cette lettre, on voit La force de personnes qui ont changé leur vie, de personnes qui sont restaurées dans leur vie. Alors, dans 2 Corinthiens 2:3, on a ce terme « persuadé » qui revient encore, et il est écrit ceci, « J'ai écrit comme je le fais pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner la joie, ayant en vous cette confiance. » Le terme « confiance » ici est le même terme qu'on voit « pépothéos » qui est à la prochaine diapo. C'est exactement le même terme. Après, dans Philippiens 1:6, « Je suis persuadé », c'est exactement le même terme qu'on retrouve. Et on le retrouve dans Philippiens 1:25, « Je suis persuadé », dans Philémon 1:21. Et en anglais, c'est encore plus profond, c'est « having confidence ». En français, c'est « sur ton obéissance que j'ai écrit, sachant que tu feras au-delà ». Donc, j'ai confiance, j'ai une ferme confiance, j'ai une ferme assurance de ce que tu vas faire. Dans Hébreux, on voit ce terme, on dit « et encore, je me confierai en toi ». J'ai une confiance, je mets ma confiance. Ce terme grec veut dire « persuader », « avoir confiance », « assurer », « croire », « être en accord ». À la prochaine diapo. On va voir le terme grec dont je parle est à la prochaine diapo, s'il vous plaît, en arrière, nos techniciens. Merci beaucoup. Et dans 1 Corinthiens 1:8, il est écrit, il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur. Il vous affirmera. Dans Philippiens 3:20-21, il est écrit, mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Si ce matin, tu as regardé ton corps et tu étais humilié par ton corps, t'inquiète pas, Jésus s'en vient. Il va transformer le corps de ton humiliation. Dans Romains 8:17-24, il est écrit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » J'aime ce terme ici. « Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Si nous souffrons avec lui, ainsi nous devenons héritiers. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire du temps à venir. Du temps à venir. Je suis content, j'ai des amens. Ici, j'avais une note que tout le monde disait amen, puis là, j'en ai une coupe d'amen. Alléluia. 1 Pierre 1, 5, 13 nous dit « À vous, par la puissance de Dieu, qui êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Si tu es attristé, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est pour un peu de temps. Un peu de temps. Alors, Jésus a commencé son œuvre et il me rendra parfait. Alors, la question que je me suis posée, si Jésus a commencé son œuvre et me rendra parfait, pourquoi des fois je sens comme si je joue à Jacques Addy, je joue à Simon dit et je suis éliminé? Pourquoi je sens comme si Jésus n'est pas en train de me rendre parfait? Pourquoi je me retrouve dans cette circonstance? Pourquoi parfois j'essaye par mes forces, j'essaye et je demande au Seigneur de m'aider? Mais parfois, j'ai des manquements dans ma foi. Et le Saint-Esprit m'a révélé quelques points, 4 points. La première des choses, c'est que si tu veux, dans ta vie, que Jésus qui a commencé l'œuvre te rende parfait, il faut que tu deviennes un ami de la croix. Un ami de la croix. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Dans Philippiens 3, 18, il est écrit, « Car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. » Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul, et si vous lisez les écrits de Paul, Paul, ce n'est pas un monsieur très émotionnel. Ce n'est pas quelqu'un qui va pleurer souvent. Paul, c'est quelqu'un qui gère très bien ses émotions. Mais Paul, ici, est en train de pleurer par rapport à ses ennemis de la foi. Il dit, « Il semble, chers amis, qu'il y ait eu des épreuves, des persécutions, des difficultés liées à l'Église de tous les âges. » Nous voyons que dans ce texte, que Paul parle de ses difficultés, de ses persécutions, de ses divisions que nous pouvons vivre autour de nous. Et dans cette réalité, Paul nous dit, c'est quoi connaître la croix du Christ? Connaître la croix du Christ, c'est reconnaître le pouvoir de l'expiation. Expiation, c'est un gros mot pour dire qu'en Christ, qu'en Jésus, tout est accompli. Et ça, c'est le centre du message de l'Église Nouvel Espoir. C'est le centre du message de l'Église depuis des décennies. C'est le centre du message de Jésus lui-même. Mais ses disciples, Jésus a eu 12 disciples, et ces 12 disciples ont tout fait par eux-mêmes. Ils pensaient comprendre, ils pensaient, après ce temps de formation avec Jésus, ils se disaient, wow, on a compris. Et le jour du test, ils ont tous failli le test. Tout le monde est parti. On dit, c'est pas ça qu'on ne s'attendait pas à ça. Moi je m'attendais pas à un roi, à un Dieu qui va mourir. Pourquoi il va aller mourir? Un Dieu c'est sa combat. Un Dieu, et il vainc les guerres et Dieu va mourir jusqu'à ce que Jésus a expliqué ce pourquoi il est venu mourir. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. » C'est en lui. Mais, tu sais, moi, tu sais, pasteur, toute ma vie, là, c'est croche, puis tout ça. Puis je ne vois pas comment Dieu peut me changer. Dieu peut te changer à cause de son sang. Dieu peut te changer, peut changer ton existence. À l'Église Nouvel Espoir, on croit que la personne la plus finie peut être restauré. On croit cela fermement. Pourquoi? Parce que Jésus, notre roi, notre Dieu, était à la croix avec quelqu'un qui était un bandit. Et le bandit lui a dit, écoute, rappelle-toi de moi. Puis Jésus a dit, aujourd'hui même, tu vas être avec moi. Il n'y a pas eu un grand appel pour lui. Hein? Il n'y a pas eu une série de 12 cours. Il n'y a pas eu un séminaire pour lui. Il dit, aujourd'hui même avec moi. Alors, je crois que si tu es ici et tu veux, et tu crois vraiment au pouvoir de l'expiation de Christ, je crois réellement que le parfait rachat a été fait. Et le parfait rachat a été fait dans le sang de Christ. Ça n'a pas été fait par tes habitudes. La Bible nous dit qu'il y a même des gens, les ouvriers de la dernière heure, Jésus a donné cette parabole, les ouvriers de la dernière heure qui arrivent et qui se font payer le même salaire que ceux qui sont venus le matin. Et on nous dit que ceux qui étaient le matin se sont plaints. Ils disent à Jésus, et moi je vois une église, je vois des gens qui disent, écoute Seigneur, moi je suis allé à l'église, ça fait 20 ans. Moi j'étais bon à Jésus-dit. J'étais bon à Jésus-dit. Lui, il était toujours éliminé à Jésus-dit. Mais il va avoir le même salaire que moi. Et Christ dit, oui, je suis le maître. Je suis le maître et je décide. C'est moi qui décide. Je n'ai pas beaucoup d'amen là-dessus. Hein? C'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'est reconnaître notre responsabilité. La croix de Christ nous fait reconnaître notre responsabilité parce que dans 2 Corinthiens 5, 19, il est écrit « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. » Depuis certains temps, moi-même j'ai, dans la vie, des fois, on doit se réconcilier. Et un des travaux les plus difficiles, c'est la réconciliation. Pourquoi? Parce que tu peux avoir les meilleurs arguments, mais si les deux personnes que tu dois réconcilier n'ont pas la volonté de réconciliation, il suffit d'une personne qui ne veut pas être réconciliée, c'est fini. Et c'est triste de voir cela. Ceci dit, ceci nous donne une image par rapport au spirituel. Christ est venu nous réconcilier, mais il me faut m'engager. Il faut que je dise, « Wow, Christ est venu, il est mort pour moi à la croix. Et il y a quelque chose que je dois faire. Je dois reconnaître ce que moi je dois faire, ma responsabilité. Je dois reconnaître et aimer la croix assez afin que se manifeste en moi. Je dois avoir une vie d'abnégation, de sacrifice, de dévouement. Ça ne veut pas dire que tu vas être cloîtré dans un monastère. Ça ne veut pas dire cela. Mais ça veut dire que comme ta vie, le plus que ta vie va devenir pour Christ, tu vas commencer à aimer les choses que Christ aime. Tu vas commencer à vouloir des choses que Christ aime. Mais commence une journée à la fois. Une journée à la fois. Et j'aimerais te dire que Christ te rencontre où est-ce que tu es présentement. Christ te rencontre dans ce que tu peux entendre présentement. Christ te rencontre dans la réalité de ta vie présente et veut t'emmener à des desseins qui sont beaucoup plus grands que les tiens. La troisième des choses pour reconnaître cette croix, c'est il nous faut entendre. Il nous faut entendre. Il faut entendre le téléphone qui sonne. Notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on entende? Jean 7, 51 nous dit cela. Est-ce que la loi condamne un homme avant que l'on entende cet homme? C'est Nicodème qui disait cela. Et j'aimerais te dire que plusieurs personnes ne croient pas en Jésus, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Jésus, mais ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, une conversation avec quelqu'un qui disait, « Ah, Jésus, tu sais, moi, je ne crois pas vraiment en Jésus parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on permet aux femmes d'être battues et il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de guerre et tout ça. » J'ai dit, « Wow! » J'ai dit à la personne qui me disait ça, « Tu sais, tu l'as peut-être pas lu, l'Ancien Testament. Tu as besoin de quelqu'un qui va s'asseoir avec toi puis qui va lire. » Parce que la Bible est une révélation. C'est révolutionnaire, la Bible. Jésus est une des premières personnes à pouvoir impliquer les femmes. Jésus est révolutionnaire. Le peuple d'Israël est un des premiers peuples à éliminer l'esclavage totalement, un des premiers peuples à accepter l'immigrant. Dieu rappelle dans Lévitique, « Vous avez été immigrants en Égypte, rappelez-vous de cela. Recevez bien l'immigrant. » Un des premiers, c'est révolutionnaire. La Bible est le livre le plus dangereux et le plus révolutionnaire. Peut-être certains d'entre vous, vous avez vu le Matrix et vous avez pensé que Néo était révolutionnaire. J'aimerais te dire que Jésus est plus révolutionnaire que n'importe quel super-héros que tu peux t'imaginer. À l'intérieur d'un certain arbre en Asie, on trouve ce qu'on appelle l'aloès, une crème qu'on met sur nous. Et ce bois se retrouve juste à l'intérieur. Ce bois est odorifiant. Et lorsqu'il brûle, on peut sentir cette odeur vraiment un peu, devenir un peu plus forte. Et dans le feu de l'affliction de notre témoignage, dans le feu des défis, des persécutions pour Dieu, il y a une odeur douce qui sort en nous. Il y a une odeur d'amitié de la croix. Et c'est ce que Dieu veut faire en nous. Dieu veut que nous reconnaissons le pouvoir de l'expiation afin de réaliser le grand prix qui est devant nous. Alors, Dieu m'a donné ces paroles pour vous ce matin. Si tu t'accroches à ta réalité, tu risques de perdre ta destinée. Si tu t'accroches à ce que tu vois, tu as déjà perdu. Tu es déjà un perdant. Parce que les circonstances ne sont jamais, jamais constantes. Il y a des journées qui sont plus belles que d'autres. Regardez, aujourd'hui, dimanche, on n'a pas de la neige et je voyais plusieurs personnes entre vous qui étaient contentes. Mais la semaine passée, nous avions eu une belle neige. Alors, ne t'accroche pas à ta réalité. Mais si tu t'accroches à la croix, tu saisiras ta destinée avec foi. Accroche-toi à la croix. La deuxième des choses qu'on apprend dans ce passage, c'est qu'il nous faut reconnaître que sans sauveur, on est perdu. Dans Philippiens 3:19, il est écrit « Leur fin sera la perdition ». Dans 2 Corinthiens 11:14-15, il est écrit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Hébreux 6:8 nous dit « Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » 2 Pierre 2:20 nous dit « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. » Il y a eu une mine aux États-Unis qui s'appelle la mine de Quick Creek. Il y a 10 ans, il y a eu un problème dans cette mine et il y avait 18 hommes au début qui étaient fermes, qui étaient perdus, qui étaient sous le sol. Ils ont pu sortir très rapidement certaines de ces personnes. Il y en est resté 9 en dessous de la terre. Et ces 9 hommes étaient à 240 pieds, c'est à peu près 73 mètres en dessous de la terre. Et il y avait de l'eau là. Ils disent qu'il y avait, c'était 55 degrés Fahrenheit, l'eau 12 degrés Celsius. Et pendant qu'ils étaient en dessous du sol et ils commençaient à désespérer, un des gars dit même qu'il n'est pas un gars très émotionnel, mais quand il a pensé dire au revoir à ses enfants puis à sa femme, ils ont commencé à pleurer. Et pendant que ces hommes étaient dans cette angoisse et au-dessus, vraiment, il y a une belle équipe. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir le reportage. Il y a un maire qui avait un cœur pour les gens, qui n'a pas abandonné. Mais pendant qu'ils étaient en dessous de la terre et qu'ils avaient froid, qu'est-ce qu'il faisait? Chacune de ces personnes venait et quand ils voyaient un qui était plus faible, on allait, on le réchauffait. On allait, on le supportait. On allait et ils s'encourageaient les uns les autres. Et c'est comme ça, pendant près de 24 heures, que ces 9 hommes sont restés en vie. À un moment, vous savez, ils essayaient de perforer le sol avec un genre de grande drill. Et quand ils perforaient le sol, il y a une mèche qui s'est cassée. Vous savez, c'est souvent quand on veut sauver les gens qu'on a des problèmes techniques. Hein? C'est pour cela que j'aime beaucoup mes gars à la technique, même si des fois on a des petits défis, parce que quand tout va bien, on ne vous dit rien. Mais quand tout va mal, on vous regarde. Donnons-leur une main d'applaudissement en même temps. Travaillez fort. Et ils ont eu 24 heures en dessous du sol. Et quand ils sont sortis, chacun là, à tour de rôle, ils ont dit, regardez, ce qui nous a gardés en vie, là, c'est le fait qu'on a, dans la faiblesse, on ne s'est pas condamné. Dans la faiblesse, on était là, les uns pour les autres. Imaginez-vous que l'un aurait dit, ah, dans la faiblesse, aurait vu l'autre en train de geler. Hey, tu n'es pas fort, toi. Tu devrais avoir un peu plus d'énergie. Tu n'es pas bon à jouer à Jésus dit. Parfois, les chrétiens, l'Église de Dieu, malheureusement, est comme ça. Tu vois quelqu'un qui est plus faible, tu vois quelqu'un qui est en train de geler, au lieu de dire, écoute, Jésus est là pour toi. Non, toi, tu es en train de mourir. Meurs. Vas-y. Et j'aimerais te dire que l'Église Nouvel Espoir n'est pas appelée à ça. L'Église Nouvel Espoir, je t'encourage ce matin. Et j'aimerais te dire que quand on dit qu'il n'y a aucune condamnation à Christ, ça veut dire que quand tu vois quelqu'un gelé, quand tu vois quelqu'un manquer de foi, quand tu vois quelqu'un qui a un manque financier, quand tu vois quelqu'un qui a des défis dans sa vie, à l'Église Nouvel Espoir, on croit, écoute, même si tu me traites mal, je vais demander à Dieu la patience. Parce que je sais que derrière ça, l'ennemi te veut dans le royaume, dans son royaume, et la mort éternelle existe. J'aimerais te dire, il y a une belle nouvelle, il y a la vie et tout ça. Je le crois fermement et on le voit, que ce soit dans les clips, quand on voit des avions qui s'en vont vers un accident, quand on voit des gens qui s'en vont vers la mort, les 5 dernières minutes de mort, que ce soit ici à l'hôpital, et dans le pavillon où est-ce qu'il y a des gens qui ont des maladies terminales, tout le monde devient croyant. Tout le monde commence à réaliser qu'il y a un Dieu quelque part. Et j'aimerais te dire ce matin, qu'il y a une place pour toi, il y a un lieu pour toi. Et ici, il n'y a aucune condamnation pour toi. Et en Christ, il n'y a aucune condamnation. Pourquoi? Parce que Christ veut te donner la vie. Il veut te donner la vie. Il est difficile de changer ce que nous ne reconnaissons pas. Il est important pour nous de reconnaître que nous sommes perdus sans Christ. Dis à ton voisin, tu n'es pas un perdant. Le défi, c'est cela. C'est qu'on pense qu'on est des perdants. Il y a une différence entre être perdu puis être un perdant. Hein? Si je suis perdu, il suffit de retrouver le chemin. Mais si je suis un perdant, c'est moi, c'est mon caractère, c'est ma vie. Un perdant, pour qu'il change, il change sa capacité, ses manières de penser, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit bouleversé dans son éthique, dans sa pensée. Totalement. Et Dieu, l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire ce matin, écoute, réveille-toi. Peut-être tu peux dire, c'est futile. Moi, je ne pense pas que je suis un perdant. Mais des fois, on le pense, peut-être qu'on ne le dit pas, mais on vit comme si on est des perdants. Un perdant ne pense pas que le demain va être meilleur. Un perdant ne pense pas ça. Comment ça peut être meilleur? Moi dans ma vie, tout va mal. Et tout ira mal, et c'est toujours comme ça. C'est un perdant. Un perdant reste cloîtré dans sa réalité parce que un perdant, c'est sa réalité qui fait sa vie. Et Dieu vient te dire, écoute, tu n'es pas un perdant. Je t'ai créé, tu n'es pas un perdant. Peut-être des fois, tu es perdu, mais tu n'es pas un perdant. Reviens. Reviens à moi. Et comprendre cela nous permet de suivre les instructions de Christ. Troisième point, c'est comprends que plus tu regardes ton nombril, plus tu as mal au ventre. Pour ceux qui ont déjà tenté l'expérience, c'est incroyable. Et dans Philippiens 3:19, il est écrit, « Ils ont pour Dieu leur ventre. » Romains 16:18 dit, « Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. » Ésaïe 56:10 nous dit, « Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés et aiment à sommeiller. » Ils s'en vont avec le feeling de la journée. Si aujourd'hui, ça me tente de boire de l'eau, je vais boire de l'eau. Si aujourd'hui, ça me tente d'aller au centre-ville, je vais aller au centre-ville. Il y a même des croyants qui ont spiritualisé la chose. Ah, moi, l'Esprit aujourd'hui me dit d'aller à telle église. Et là, dimanche prochain, non, moi, je vais à telle église parce que je suis conduit par l'Esprit. Tu n'es pas conduit par l'Esprit. Tu es conduit par ton ventre. Et Dieu veut te dire ce matin qu'afin que tu vives dans la bénédiction, tu dois arrêter d'écouter toujours tes sentiments. Même dans un foyer, je vais aller plus loin, même dans un foyer, tu vis, puis tu es dans le mariage, puis ton mariage, il y a des choses qui vont mal. Puis si tu es conduit par ton ventre, je peux te garantir que tu vas avoir des défis dans ton foyer. Parce que malheureusement, ce que mon ventre veut, mon épouse ne veut pas la même chose en même temps. Et c'est très important, même dans un foyer, de le savoir. Même dans une église, c'est important avec la personne autour de toi. S'il y avait plus de personnes qui comprendraient cela dans la francophonie, on aurait une multitude d'églises avec 10 000, 15 000 personnes. Oubliez notre ventre. Oubliez notre nombril. Et Dieu m'a donné cette parole pour l'Église Nouvel Espoir. Nous voulons être une bénédiction, non seulement pour nous ici, mais pour les églises de la région. Une chose que j'ai à cœur, c'est même par rapport à la louange, quand on a commencé l'Église, j'ai vu que dans la région, il n'y a rien pour aider des églises qui commencent. Je dis, Seigneur, donne-nous une équipe de louange solide. Donne-nous plusieurs musiciens. On est là, on les forme. Pourquoi on veut les former? Parce qu'on veut les envoyer aussi ailleurs. On ne veut pas garder notre bénédiction. Pourquoi? C'est impossible de gagner ce combat contre le diable tout seul. Impossible. Une église forte ne pourra pas gagner le combat contre 192 000 personnes qui ont cette culture. Nous avons besoin de plusieurs églises fortes. Et pour faire cela, il faut des gens qui se disent, écoute, j'oublie mon nombril. C'est bien, j'ai bien mangé, mais tu sais, si je donne du pain à mon voisin, demain, il va m'aider à bouger mon couch. Pense-y. C'est de faire l'investissement. Lorsqu'un homme est dur et sensible, on dit qu'il est de marbre en français. Les Français de France, hey, un homme de marbre, as-tu déjà vu ça, un homme de marbre? Un homme de marbre, c'est quelqu'un qui est insensible et tout ça. Et chacun sait que le marbre peut avoir de belles apparences. Quand on voit le marbre dans une maison, c'est beau. Ceci dit, dans la profondeur d'un homme de marbre, il y a quelque chose de laid. Il y a de la jalousie, il y a de la convoitise. Et Dieu nous dit ce matin que ça ne sert à rien d'avoir un masque. Ça ne sert à rien d'avoir l'extérieur qui paraît super bien, mais pendant à l'intérieur, tu es jaloux. À l'intérieur, tu n'es jamais content des bénédictions des autres. À l'intérieur, le frère et la sœur te disent « J'ai eu un nouveau travail. » Gloire à Dieu pour toi. Mais vraiment, à l'intérieur, tu es comme « Tout de bien arrive juste pour toi. Si seulement il s'enfarge dehors, ça va me faire du bien. » L'amour est un besoin si exclusif. Pour se faire ou pour se satisfaire, il sacrifie même l'égoïsme, Fernand Van der Hem dit. Mais la preuve, c'est que sitôt on oublie l'amour, l'égoïsme reprend son empire. Il y a deux amis qui se sont retrouvés dans une forêt. Et ces deux amis ont vu un grizzly, un peu comme à la prochaine diapo. Et quand ils ont vu ce grizzly majestueux, il y avait des belles dents, le grizzly a pensé, « Wow, c'est du beau lunch, ça. » Juste comme ça, ça serait bon à croquer, ça. Et les deux amis sont partis à courir. Et il y en a les deux d'entre eux, ils étaient pas mal rapides. Et un d'entre eux a réalisé que mes lacets, je dois attacher mes lacets. Alors, il s'arrête pour attacher ses lacets. Et là, son ami, regardant en arrière, dit, « Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire bouffer. » Il dit, « Je suis en train d'attacher mes lacets. » Il dit, « Ben, tu penses vraiment que tu vas courir plus vite que le grizzly en attachant tes lacets? » Il dit, « J'ai pas besoin de courir plus vite que le grizzly. J'ai besoin de courir plus vite que toi. » Et ceci, ça démontre un peu comment on... que la morale n'est rien que la régularisation de l'égoïsme. Cet homme, pensez, en regardant en arrière, en s'arrêtant en arrière et tout ça, vous pouvez penser qu'il avait des bons motifs, mais son motif, c'était de sauver sa vie. Et très souvent, nous voulons sauver notre propre vie. C'est un peu comme cette personne aussi. On m'avait raconté cette histoire de cette personne qui est allée voir son ami, puis son ami était triste, pleurait, il y avait des mouchoirs autour de la personne, un peu comme ces mouchoirs-ci, puis il était là, il se mouchait, puis pleurait. Et là, son ami dit, « Pourquoi tu pleures? » Il dit, « C'est parce que la semaine passée, j'ai eu des bonnes nouvelles lundi passé. » Qu'est-ce qui est arrivé lundi? Il dit, « Ben, c'est parce que lundi passé, mon oncle est mort et m'a laissé 80 000 $ Puis il dit, « Ben, oui, ça a l'air d'être une bonne nouvelle. » Il dit, « Ben, mercredi, j'ai eu un autre appel. Ma tante est morte, puis il m'a laissé 45 000 $ Il dit, « Ben, wow, t'es béni. » Il dit, « Non, tu comprends pas. » Il dit, « Vendredi, j'ai eu une autre nouvelle. Ma grand-mère est morte, puis m'a laissé 1,5 million. » Puis il continue à pleurer. Ben, il dit, « Ben, t'es béni. C'est quoi ton problème? » Il dit, « Ben, aujourd'hui, j'ai rien reçu. » Il y a un grand défi dans la vie. Très souvent, on ne voit pas les bénédictions que nous avons. Très souvent, on est, vous savez, c'est ça qui arrive quand on a tellement les yeux sur notre réalité qu'on ne réalise pas que Dieu fait des grandes choses, que Dieu fait des merveilles. Si ce matin tu es ici, c'est parce que Dieu a fait une merveille dans ta vie. Si tu comptes les merveilles de Dieu dans ta vie et mets-les devant tes yeux. Philippiens 2:4 nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il y a des gens, j'ai dit ça, là, il y a des gens, juste à cause, j'ai dit ça, là. Vous voulez me donner, vous me voyez comme un sac à frapper. Considérez les intérêts des autres. De quoi tu parles? J'aimerais te dire que la parole de Dieu te dit ça parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dans Jacques 4, 1, 3, il est écrit, d'où viennent les luttes et où viennent les querelles parmi vous? J'aimerais te dire que Jacques connaissait Jésus. Jacques, il a joué avec Jésus aux billes, s'il y avait des billes au temps de Jésus. Jacques, c'est le frère de Jésus. C'est son frangin, lui. Lui, il appelait Jésus, « Hey! » Jesus, ça va. Lui connaissait, il a vu Jacques, son grand frère, Jésus des fois allait le chercher quand Jacques était désobéissant, parce qu'on sait que Jésus était obéissant, Jésus allait le chercher pour lui dire, écoute, maman te cherche. Et Jacques, c'est ça qu'il écrit, il écrit ceci pour nous bâtir, il écrit ceci, je pense qu'il y a une profondeur dans qu'est-ce qu'il écrit. Jacques a vu pourquoi les querelles arrivaient et il a peut-être demandé à Jésus, pourquoi les querelles arrivent? Et Jésus lui a dit probablement ceci. Tu sais d'où ça vient? N'est-ce pas par nos passions qui combattent dans vos membres, par ton ventre, premièrement? Les querelles, ça vient à cause de toi, de ton toi. Hein, pas le toit de ta maison, mais ton toit. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes des meurtriers envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. En d'autres mots, tout ce que tu fais quand tu convoites, quand, ça ne fait rien. Ça n'ajoute rien. Quand on convoite, quand on critique, quand on détruit la personne, tu ne fais rien. Tu détruis ta vie et tu détruis la vie des autres. Tu détruis ton environnement. Quand en tant qu'Église, en tant que chrétien, tu critiques l'autre Église, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis le royaume. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Alors commence à bâtir. Commence à bâtir. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. J'ai une bonne nouvelle. Si tu n'as pas reçu, tu vas m'haïr aujourd'hui. Tu demandes, tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça me fait du bien aujourd'hui. Aujourd'hui, moi-même, je dis amen à ça. Dans le but de satisfaire nos propres passions. Et Dieu me disait que mon peuple va commencer à demander. La bonne nouvelle, c'est que mon peuple va commencer à demander, mais va commencer à bien demander. Et quand tu vas bien demander, tu vas recevoir les cadeaux du ciel. Tu vas recevoir, et crois-moi, si tu es sceptique aujourd'hui, commence à bien demander. Commence à bien demander. Dis, écoute, Seigneur, juste pour celle-là, je vais oublier mon nombril. Juste pour ça, là, tu sais, demande quelque chose pour ta femme si tu es marié. Seigneur, je te demande ça. Tu sais, juste comme ça, là, fais cela. Et souvent, ça fonctionne quand on prie pour les autres. Hein? Si on prie pour moi, comme ça, je vais recevoir toutes les affaires. Et moi, je vais prier pour toi. Et ceci introduit mon dernier point et ne te glorifie pas dans la chair. Ne te glorifie pas dans la chair. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et quand j'ai lu cela, mais moi-même, quand je me regarde le matin, comme vous le savez, j'aime me regarder et dire, waouh, quelle merveilleuse créature que Dieu a donnée. C'est fantastique. Mais je ne peux pas me glorifier dans la chair. Je ne peux pas. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Galates 6, 12, 13 nous dit, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. En d'autres mots, nous sommes là à donner des règles. Qu'est-ce qui arrivait aux chrétiens de Galates? Ils donnaient des règles aux gens, mais eux-mêmes ne vivaient pas une vie circoncise. Nous sommes là en disant, vis dans la pureté, vis dans l'intégrité. Mais à la première opportunité, tu triches dans tes taxes. Dans la première opportunité, il y a une petite dame qui te donne du change de plus dans le Walmart et tu dis, oh, merci Seigneur, Seigneur m'a béni, puis te voilà, tu es en train de courir et dire à ton mari, start the car! tu viens de voler. Tu viens de voler. Parce que quand cette personne va perdre son travail, c'est des petites choses comme ça. Et tu parais, ton apparence devant tout le monde, on dit, oh, alléluia, amen. Frère, oh Jésus, Jésus te bénit. Je suis béni par toi. La première opportunité que tu as de frapper quelqu'un, de critiquer quelqu'un, tu le fais. Et ici, c'est ce que Paul nous dit dans cette lettre de Galates. Il dit, ils vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans leur chair. On a eu plusieurs baptêmes. Oh non, j'ai eu 50 baptêmes. Regarde, je me glorifie. On a eu, voici ce qu'on a fait. On a gagné 60 âmes. Regarde les statistiques de l'Église. Notre Église n'est pas une Église statistique. C'est une Église transformation. Transformation. On veut voir des vies transformées, une personne à la fois. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais on sait que quand ces âmes vont être transformées, ça va être à la gloire de Christ. Tite 1, 10 à 13 nous dit, « Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. » Parmi les circoncis, je m'excuse, beaucoup de gens rebelles. « De vains discoureurs, de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche, ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. » Encore là, Paul parle sévèrement. Et je crois que dans l'Église de Dieu, je crois qu'en tant que croyant, je crois qu'en tant que non-croyant, il y a un lieu où est-ce que nous devons dire, « Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, il m'est arrivé de voir même des non-croyants qui ont un cœur, ils respectent certaines lois de Dieu plus que certaines personnes qui viennent à l'Église. Et je ne veux pas dire que c'est ça qui va leur sauver, parce qu'on sait que c'est le sang de l'expiation qui les sauve. Mais je crois qu'il y a un lieu où est-ce qu'on doit se remettre en question et dire, Seigneur, par ton sang, je suis sauvé. Seigneur, il faut que je fasse des changements. J'ai besoin de rénovation. On va faire de la rénovation ici. Vous allez voir, ça va être super beau. Il va y avoir des belles lumières ici. Il va y avoir un look un peu plus moderne pour mieux vous recevoir. Et nous croyons que nous allons préparer les filets pour ce que Dieu va faire ici dans ce lieu. Mais je pense que des fois, dans la vie, il te faut bouger ton lit. Il te faut bouger tes couches pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous puis passer le balai. La même chose dans ta vie personnelle. Si tu as l'opportunité cette semaine, je te demande de prendre le temps de lire l'épître de Jude. Jude, c'est l'autre frère de Jésus. Et Jude, il est assez direct lui aussi, et il parle de toutes ces personnes. Il parle de ce mode de pensée Jésus dit. De ce mode de pensée, tu es là, tu es dans la maison, et tu fais tout ce que Jésus dit. Ceci dit, tu le fais avec un cœur plein de contraintes. Tu n'es pas certain. Tu dis que je le fais parce que si je ne le fais pas, je vais aller en enfer. Je le fais parce que si je ne le fais pas, c'est trop d'efforts d'aller et de faire autre chose. Et j'aimerais te dire quelque chose. Nous ne pouvons pas suivre Jésus par contrainte. Nous suivons Jésus par passion. Et cette passion-là va être contagieuse. Cette passion-là va être contagieuse. Et c'est ce que nous voulons, et c'est ce que nous voulons voir. C'est un peu comme cet enfant qui a reçu pendant son anniversaire, nous avons eu un anniversaire cette semaine chez nous à la maison, mais cet enfant a reçu un harmonica. Son oncle a eu le génie de lui acheter un harmonica. Je vous demande, n'achetez pas à mes enfants d'harmonica, s'il vous plaît. C'est pas parce que j'aime pas l'harmonica, mais un enfant avec un harmonica ou avec un drum à la maison, c'est dangereux. Et cet enfant avait l'harmonica et content, a reçu ça. Et puis quand il a revu son oncle une année après, il a dit à son oncle, « Tonton, t'es tellement gentil, mon oncle, t'es tellement... Toi, là, t'es le meilleur, mon oncle, c'est le meilleur cadeau que j'ai eu. » Alors, là, l'oncle, il dit, oh, il est un peu trop passionné, cet enfant. Pourquoi il est passionné comme ça? Il dit, « T'es rendu bon? Est-ce que tu joues à l'harmonica? » Il dit, « Non. » Il dit, « Maman me donne 1 $ chaque jour pour pas que je joue. » Puis mon père me donne 5 $ la semaine. À cause de ça, c'est un merveilleux cadeau. Mais ce que cette histoire nous apprend, c'est quoi? C'est que cet enfant a su comment recevoir qu'est-ce qu'il veut. Avec la chair, hein, on peut recevoir qu'est-ce qu'on veut. C'est pour son moi. Écoute-moi, OK, je vais en jouer un peu aujourd'hui. Maman va me donner 1 $. La chair, c'est ça. Vous savez, dans les ruches d'abeilles, il n'y a jamais 2 reines. La minute qu'il y a 2 reines, c'est un coup d'État qu'il y a chez les abeilles. Et je crois que dans nos vies, nous ne pouvons pas avoir 2 rois, nous ne pouvons pas avoir 2 reines. C'est soit de la chair, soit de l'esprit. Et Dieu nous appelle à vivre selon l'esprit. Pas parce que c'est plus ennuyant, mais parce que c'est plus passionnant. Pas parce que la vie de l'esprit est une vie de contrainte et de restriction de Jésus dit. Jésus dit, ne fais pas ça. Jésus dit, n'écoute pas telle musique. J'ai eu l'opportunité d'aider un jeune il y a quelques années et lui, il allait dans une école chrétienne et à un moment, il a dû pour une raison, aller dans une école publique. Et tout ce qu'il faisait, il disait à ses amis, il m'a dit, écoute, j'ai pas d'amis. Je dis, pourquoi t'as pas d'amis? Il dit, parce que tous mes amis, ils écoutent telle musique, ils écoutent ça. Puis je leur dis, tous les jours, je les évangélise. Puis j'ai dit, arrête d'évangéliser. Arrête. Il va dire, OK, le pasteur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comment il dit? Je dis, écoute, tu veux des amis? Arrête d'être leur professeur. Ça, c'est la première des choses. La meilleure manière d'évangéliser les gens, premièrement, c'est passer du temps avec eux. Passe du temps avec eux. Commence à connaître les personnes pour qui ils sont. Commence à connaître leur arrière-plan. Et c'est ce que ce jeune a fait. Ce jeune avait des défis personnels. Ce jeune vivait une dépression intense. Ce jeune aurait été parmi une des statistiques de suicide que notre pays a. Ce jeune a juste appliqué cela. Au lieu d'être un chrétien, moi j'appelle ça un chrétien TTC, tu es plus chrétien que Jésus lui-même. Parce que Jésus, de temps à autre, il allait voir des collecteurs d'impôts. Jésus, de temps à autre, visitait Zachée. Et les pharisiens disaient, écoute, donne-lui le message, là. Frappe-le avec ta Bible. Et Jésus disait, non, on ne frappe pas avec les parchemins. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on fait. On s'assoit avec les gens, on mange avec eux, on connaît les gens et on leur montre que l'esprit qui est en moi est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Et ce jeune a fait cela. Vous savez, des fois, on sème dans la vie des gens, je ne le dis pas par orgueil, mais juste en semant comme ça dans sa vie, en quelques mois, le jeune s'est fait plusieurs amis. Et là, il y avait un autre problème, il est devenu un des jeunes les plus populaires de l'école. Et quelle manière plus facile d'évangéliser quand tu es populaire? Hey, tu rentres à l'école. Et l'Esprit de Dieu, il n'a pas changé ses habitudes. Il n'a pas commencé par faire toutes les choses qu'on fait dans les écoles. Il a gardé sa vie, mais sa discipline était sur lui. Le problème avec le Jésus dit, c'est qu'on détecte autour de nous. Et c'est vrai, il faut discerner. C'est vrai, il faut choisir ses amis. C'est vrai que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Mais fais attention à ne pas devenir religieux. Parce que l'esprit de religion, qu'est-ce que ça fait? Ça te détruit toi-même et ça détruit les gens autour de toi. Et Jésus a commencé une œuvre. Et si Jésus a commencé une œuvre, ne sois pas dans la peur. Jésus, t'as mangé avec les prostituées, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Jésus, t'es allé à telle place, puis là, il boit. Jésus, t'as été avec des collecteurs d'impôts. Jésus, la peur. Les pharisiens ont toujours peur. C'est plein de peur. Mais Jésus n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il sait que la semence qui est en lui est plus forte que la semence qui est dans le monde. Alors, si tu as reçu de la semence de Jésus, automatiquement, quand tu vas rentrer, tu vas voir peu à peu, journée après journée, tu vas voir qu'est-ce qui va arriver dans toi. Tu vas aller avec des gens, puis tu vas voir leur vie va changer en un an, en deux ans, en trois ans. J'ai un voisin, il ne vient pas encore ici, mais il vient ici par la foi. Mais des fois, je retourne chez moi, là, j'ai de la neige, j'arrive chez moi, c'est le voisin le plus chrétien de la rue. Il enlève ma neige. Alléluia, praise God, je le bénis. Je le bénis. Et de temps à autre, on parle de hockey, on parle de journaux avec lui. J'ai parlé de l'Église. Mais tu sais, vous savez quoi? Je ne le bombarde pas de Jésus toujours. Nous avons besoin, Église de Dieu, de comprendre que Jésus a commencé une œuvre et la rendra parfaite. Jésus est mort à la croix, pas toi. Et fais attention, ne va pas rechercher une persécution qui n'est pas la tienne. Mais tu sais, tu vas au travail, puis à chaque fois au travail, tout ce que tu fais pendant ton shift, puis je ne sais pas vous, là, mais tout ce que tu fais pendant ton shift, au lieu de travailler, tu commences à témoigner, tu témoignes à tout le monde. C'est super, mais ce n'est pas dans ta description de tâche. Fais ta description de tâche. Mais pasteur, c'est parce que je suis en Christ, là, puis c'est bien, témoigne, mais trouve l'opportunité de témoigner. Le mot opportunité est important ici, parce que ton travail va démontrer que tu es enfant de Dieu. Tu arrives à l'heure, tu es toujours ponctuel et toujours bien habillé, tu es propre, tu es patient avec les gens. Et juste ta manière de vivre les choses vont démontrer que Jésus est en toi. Mais si tu arrives en retard et tu parles aux gens de Jésus, mauvaise publicité, mauvaise publicité. Tu arrives toujours. J'aime l'Église Nouvel Espoir parce que le monde ici est ponctuel. Ponctuel. Il y a des pasteurs qui me disent, oh, nous, on a des problèmes de retard. Ici, on n'a pas de problème de retard. Pourquoi? Parce que vous comprenez, vous aimez Jésus. Et c'est ça. C'est ça. Quand on aime Jésus, on le met en avant. On le met en avant et on sait, on comprend que nous sommes la publicité de Jésus. Nous sommes ceux par qui Jésus va. Est-ce que tu vas être parfait? Non. Ceci dit, celui qui a commencé te rendra parfait. Quand tu tombes, ça, c'est une autre chose. Quand tu tombes, que ce soit dans un milieu, on dit, ah, voilà, tu mens, tu es un menteur. Hein? Voilà, les chrétiens sont des menteurs. Je ne suis pas parfait. Celui qui a commencé me rendra parfait. Et relève-toi. À chaque fois que tu tombes, relève-toi. Et c'est ce que Jésus veut faire. Durant toute cette série, durant tout ce mois, tu vas voir si tu as des condamnations, des choses qui sont arrivées dans le passé, des paroles de mort. Tes parents t'ont dit, écoute, toi, tu vas finir en prison, tu es fini. Toi, là, tu as toujours été indiscipliné. J'aimerais te dire, ce mois-ci, toute la condamnation va partir. Je peux te le garantir. Comment je te le garantis? Parce que c'est dans la Bible, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu te mets en Christ pendant ce mois-ci, je te garantis une chose. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et pendant que l'équipe s'avance et que nous allons louer le Seigneur ensemble, j'aimerais qu'on incline nos têtes. Juste quelques minutes. Mais j'aimerais que tu vois tes défis, défi de chair. Tu vois les paroles que tu as entendues. Tu n'as pas besoin d'être chrétien. Tu n'as pas besoin même d'être quelqu'un qui a accepté Jésus pour que Jésus te touche. Tu as juste besoin d'être un être humain vivant, ce que Jésus t'a créé. Même si tu ne le reconnais pas, crois-moi, un jour tout œil le verra, tout genou fléchira. Alors si dans ton cœur, tu as entendu ceci, tu te rappelles parole de mort, un patron peut-être t'a dit, écoute, toi, là, ton passé, là, ta réalité, t'es fini. Toi, je ne te ferai jamais de référence. Qui penses-tu que tu es? Toi, là, ta maladie, c'est terminal. Ta réalité est terminale. Toi, dans ta famille, là, c'est fini. Tu ne seras plus accepté. Peut-être que tu as vécu des temps difficiles, des temps où est-ce que tu avais besoin de réconciliation avec quelqu'un, mais tu n'as pas eu l'opportunité de lui dire, écoute, pardon. Et des fois, on n'a pas l'opportunité. Des fois, on aimerait faire cela, mais la vie, ce n'est pas Hollywood. Dans la vie, il y a des réalités. Des réalités, des fois, on n'a pas le contrôle sur tout. Et j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y a un lieu où est-ce que Jésus te pardonne. Où est-ce que cette personne n'a pas pu te pardonner. Ou est-ce que peut-être pour telle ou telle raison, tu n'as pas pu être pardonné, Jésus te pardonne. En Christ, il te dit, tes péchés sont pardonnés. Tu essaies d'atteindre par toi-même, tu essaies d'atteindre par toi-même des choses, tu essaies d'avoir du matériel par toi-même, tu essaies d'avoir une vie de couple qui honore Dieu, tu n'arrives pas par tes forces. C'est-à-dire, il y a une préqualification pour venir à Jésus, c'est de dire, je suis pécheur. Ta vie est laide, présentement, tu es à la bonne place. Parce que son amour est là pour des gens qui ont la vie laide et il transforme leur vie. Jésus fait des chenilles, des papillons. Et c'est ce qu'il veut, Jésus veut te transformer ce matin. Pendant que tu as la tête inclinée, vois ces choses. Toutes ces choses, toutes ces fenêtres mentionnées devant toi, tous ces défis que tu peux avoir, tous ces doutes que tu peux avoir dans ta vie personnelle, toutes ces questions, ton égoïsme peut-être. Peut-être que tu es quelqu'un, peut-être que tu ne pensais pas que tu étais égoïste ce matin, mais tu es venu, puis juste quand on a parlé de la chair et du ventre et du nombril, tu réalises qu'écoute, moi je pense juste à moi. Ça ne va pas changer en un jour. Je ne donne pas une solution magique. Mais je te dis que Christ a commencé une œuvre et il te rendra parfait. Tu es ici dans ce lieu et tu as un cri pour l'Église dans la francophonie. Tu as un appel, tu crois que Dieu est ici pour toi et que tu as un appel dans cette maison. Mais Dieu veut aujourd'hui que tu remettes ton projet entre ses mains. Tu es ici, tu as peut-être quitté une Église avec des conflits, avec des défis, avec des problèmes. Tu as quitté ta famille avec des défis, avec des problèmes. Et j'aimerais te dire que Christ est ici et veut te pardonner. Ce matin est un matin de réconciliation. Ce matin est un matin de pardon. Ce matin est un matin où est-ce que nous allons trouver le cœur de Dieu et que Dieu va restaurer les cœurs. Nous savons que ton Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Seigneur, nous avons demandé ton feu, plus de toi. Nous avons demandé de briser les chaînes de condamnation pendant ce mois. Et maintenant que les gens vont retourner chez eux. Maintenant que les gens vont avoir un moment de koinonia ensemble, de communion ensemble. En ce dimanche, Seigneur, je te demande de guérir les cœurs, de restaurer les cœurs, de donner, Seigneur Jésus, cette guérison que seul toi peux donner, cette transformation que seul toi peux donner, Seigneur. Seigneur, tu vois dans nos cœurs, Seigneur Jésus, le feu qui est mort, le feu qui a été éteint par les circonstances de la vie, le feu qui a été éteint par l'égoïsme, par la chair. Et Seigneur, manifeste ta présence dans la vie de tous et chacun. Et on te remercie pour ce que tu fais. On te remercie en tant qu'Église pour ce que tu fais dans ce lieu. On te remercie en tant qu'individu pour ce que tu vas faire dans nos vies. Nous savons que toi qui as commencé une œuvre, tu la rendras parfaite. Nous nous accrochons à cette vérité. Tu as commencé et tu rendras cette œuvre parfaite. Et ceux qui le croient, peuvent dire un grand Amen, un grand Alléluia et on applaudissons le Seigneur ensemble. Bon dimanche.
Vous venez d'écouter un message provenant de l'Église Nouvel Espoir située au 2224 rue Ennis à Ottawa, au Canada. Notre code postal est le K1B4C4. Vous pouvez accéder gratuitement à nos messages par le biais de notre site web www.eglisenouvelespoir.com. Si vous avez des témoignages de vie transformée au travers de ce ministère, écrivez-nous à transformation@eglisenouvelespoir.com ou vous pouvez nous joindre au 613-909-7274.